RCF.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Parole Protestante. Comme chaque premier dimanche du mois, nous parlons de la prière selon la demande des disciples à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Remercier, c'est aussi prier. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui une réflexion sur la prière de reconnaissance avec les fêtes de Soukhot et des récoltes. Nous verrons ensemble à quoi correspondent ces fêtes, quelle signification spirituelle elles ont et comment les pratiquer au jour le jour dans nos vies personnelles et en Église. Nous sommes ensemble durant 25 minutes.
Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission accompagné de Jean-Didier Rousseau ainsi que de Daniel et Bernard Delépine. Vous êtes chacun très engagé à l'église protestante baptiste d'Angers. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors c'est quoi au juste cette fête de Soukhot dont je n'ai jamais entendu parler? Elle est dans la Bible, Daniel?
Oui, bien sûr, on trouve ça dans le Premier Testament, dans le livre du Lévitique, chapitre 23, 42. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes. Soukhot en hébreu signifie « fête des cabanes, des huttes, des tentes ou des tabernacles ». Elle est l'une des 3 fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah, les 2 autres étant Pâques et Pentecôte. À la fête des huttes ou des cabanes, puisque c'est la même chose, on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode. À cette fête s'ajoute la fête des récoltes, qui marque la fin du cycle agricole annuel.
Merci Daniel. Elle se vit à quel moment cette fête et qu'est-ce qu'on y fait, Jean-Didier?
Alors cette année, elle se fête du vendredi 2 octobre au soir jusqu'au vendredi 9. Pendant cette fête, on construit une cabane ou une tente. Chaque année, elle doit être reconstruite dès la fin de Yom Kippour, soit dans le jardin ou sur un balcon. Et si les murs de la cabane peuvent être réalisés dans divers matériaux, en revanche, le toit doit impérativement être constitué de produits issus du sol. Comme des feuillages, par exemple, des branches, on doit pouvoir voir les étoiles au travers. Elle est en général très décorée. Et puis pendant 7 ou 8 jours, selon où on se trouve, la cabane servira d'habitation pour la famille, alors principalement pour consommer les repas, mais aussi pour pouvoir y dormir, accueillir ses amis. Le 7e jour, les Israélites se rendaient au temple, vêtus de blanc, avec des branches de palmiers en criant « Hosanna !»
Alors si je comprends bien, c'est une fête du souvenir, n'est-ce pas Bernard?
Ah oui, parce que généralement, les fêtes dans la Bible servent à nous souvenir. Comme le soulignait Daniel tout à l'heure, il y avait 3 grandes fêtes avec un pèlerinage presque obligatoire à Jérusalem. Celle que nous évoquons aujourd'hui, donc la fête de Soukhot, le but c'est de ne jamais oublier. D'ailleurs, si nous reprenons les paroles de Jésus lors de la scène, il précise « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous avons tellement vite tendance à oublier qu'il faut des fêtes ou des moments pour faire souvenir, comme on dit. Nous avons bien en France des jours spécifiques pour nous souvenir de la tragédie des 2 guerres mondiales, par exemple.
Oui, c'est vrai. Et les Israélites, ils se rappellent de quoi dans cette fête?
Alors cette fête, c'est un rappel du cheminement de 40 ans dans le désert, durant lequel le peuple a été nourri chaque jour par Dieu, par la manne, les cailles, de l'eau. On se représente pas bien, mais nourrir 650 000 hommes, plus les femmes, les enfants, c'est grandiose.
Près d'un million de personnes.
Ouais. Et ils ont tous été nourris tous les jours dans un désert de cailloux. Ça relève du miracle. Il fallait aussi trouver de quoi faire paître et boire les troupeaux, moutons, chèvres, bœufs, chameaux et certainement d'autres encore. Mais Dieu voulait ainsi se révéler à eux. Et on lit cette déclaration dans le livre du Deutéronome. Le Seigneur a pris soin de vous pour que vous puissiez comprendre qu'il est votre Dieu.
Ah oui, puis alors, on n'en a pas toujours conscience, mais le Seigneur, il a pourvu aussi à ce qui touche au vestimentaire. Dans le même livre, on lit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton soulier ne s'est point usé, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années ».
Oui, ce serait un peu difficile aujourd'hui d'avoir les mêmes chaussures et vêtements. Dans nos pays occidentaux, déjà, lorsque les petits héritent des vêtements de leurs aînés, ils râlent un peu.
Ah oui, je le dis avec humour, mais on peut tout de même relever que le Seigneur était en avance sur notre temps. Lui, c'est un écolo, un vrai. Trêve de plaisanterie, c'est inimaginable pour nous de porter les mêmes vêtements pendant 40 ans. Et c'est bien normal, car ça tient du miracle. Le campement hébreu devait être impressionnant. Quelqu'un a calculé que l'arrêt, il faisait entre 4 et 5 kilomètres.
Alors Moïse était le chef. Comment savait-il qu'il fallait aller dans un endroit plutôt que dans un autre ?
Alors, oui et non, Moïse le chef, oui, c'était le chef dans le sens que c'est l'Éternel qui a décidé que ce soit Moïse le chef. Mais le vrai chef, c'est qui ? C'est l'Éternel qui prenait l'initiative du départ et de l'arrivée. Et du temps passé dans un endroit. On le lit en Nombre 9, les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Et le livre de l'Exode 13 nous dit comment ça se passait. Et l'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Comme ça, on pourrait croire que ce n'est pas très important, mais la question qui est derrière tout ça, c'est qui est-ce qui conduit ta vie ? Qui conduit chaque paroisse aujourd'hui ? C'est l'humain ou le divin ?
C'est une question bousculante, Jean-Didier.
Ah bah oui, il faut un petit peu quand même, sinon on n'avance pas. Hein.
Nous disions que les gens célébraient cette fête en construisant des cabanes ou montaient des tentes, dans leur jardin, c'est ça ?
Oui, c'est en même temps très sympa à faire, mais n'oublions pas que d'un point de vue spirituel, c'est une invitation à s'en remettre à la volonté divine encore et encore. Cette fête symbolise la précarité, voire la fragilité de la vie. C'est une manière de retrouver la simplicité de la vie nomade dans le désert et de retrouver le contact avec Dieu. Le peuple hébreu avait dû s'en remettre à la volonté de Dieu pour leur survie et lui faire confiance. Et cette confiance devait se perpétrer sur la durée. Avoir confiance une semaine ou un mois, ça passe, mais imaginez, vous devez faire confiance tous les jours durant 40 ans, c'est autre chose, même si ça n'a pas toujours été facile. Le vécu du peuple hébreu devrait nous encourager à la confiance en Dieu, confiance en celui qui peut pourvoir à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et ce, sur la durée.
Merci Daniel. Faire confiance au Seigneur et lui laisser le contrôle de notre vie. Ça, c'est tout un programme. Prenons le temps d'y réfléchir en écoutant Corinne Lafitte et Il est bon de louer le Seigneur. Reste avec nous, nous revenons dans quelques instants.
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La 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 la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission consacrée à la fête de Soukhot. Peut-on évoquer à présent là ou les significations spirituelles ? Avant la pause, nous évoquions donc le fait que c'est l'Éternel qui conduisait le peuple dans le désert par une colonne de feu ou de nuée. Mais il y avait bien aussi l'Arche de l'Alliance, non ?
Ah oui, ce coffre était installé sous une tente appelée le tabernacle qui était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans ce dernier que l'Arche était installée. Si vous avez la chance de visiter Israël, il y a une reproduction en taille réelle dans le parc de Timna, en plein désert, à 20 km au nord d'Elat. Pour l'avoir visité, c'est formidable. Le tabernacle, c'est le lieu où Dieu résidait par sa présence et où il se manifestait en parlant à Moïse.
Vous employez l'imparfait parce que ce n'est plus le cas.
Alors non, en ce temps-là, les Hébreux dans le désert, tout comme les Israélites après, ont eu besoin d'une construction symbolisant la présence de Dieu. Mais l'apôtre Paul le dit et le redit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Le tabernacle était une habitation provisoire pour Dieu, et je me permets d'insister sur ce terme « provisoire ». C'était en vue d'autre chose, de plus fort et de meilleur encore.
Mais quand on veut prier, on va dans une église, non ?
Alors, vous pouvez bien sûr aller dans une église pour prier, mais c'est pas obligatoire. Car le Seigneur vous entend de partout. Lorsque la Bible parle d'église, il ne s'agit pas d'un bâtiment. L'église, ce sont les personnes qui la composent. Par ailleurs, Paul le dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Paul ou Pierre donnent aux termes « temple » et « église » une toute autre signification que ce que nous avons usuellement aujourd'hui.
Ouais, pour aller un peu dans ce sens de Jean Didier, on peut citer l'épître aux Colossiens qui dit « Tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui ». Nous n'avons pas ici le temps pour une théologie approfondie, mais pour faire court, disons que toute la divinité de Dieu, son amour, sa sagesse, sa grandeur, sa toute-puissance, sa beauté, sa créativité, enfin j'en passe, tout cela a pris corps en Jésus. Le terme d'ailleurs corporellement parle du corps spirituel élevé, visible seulement par les habitants des cieux. Ben, disons que pour prendre une image, c'est la gloire du Créateur qui vient remplir l'être tout entier de Jésus jusqu'à en déborder. C'est d'ailleurs le témoignage du chef religieux Nicodème qui dit « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'était pas avec lui ». Nicodème ne croyait pas si bien dire, à ceci près, et c'est important, Dieu n'était pas avec Jésus, comme s'il était à l'extérieur, mais il était en lui.
Si je suis votre raisonnement, Bernard, Dieu n'était pas forcément dans le temple de Jérusalem lors du ministère terrestre de Jésus, mais en Jésus lui-même.
Ah, vous avez tout compris, Jean-Pierre. Il faut noter au passage que l'arche avait déjà disparu du temple à ce moment-là, et certains la cherchent encore d'ailleurs. Rappelez-vous, Jésus chasse les marchands du temple, et Jean nous rapporte, je cite, « Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Et Jésus leur répond, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. » Mais le temple dont Jésus parlait, c'était son corps, témoigne l'évangéliste Jean. D'ailleurs, lors de la prière sacerdotale en Jean 17, Jésus le souligne encore, « Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi et ma gloire se manifeste en eux. Qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. »
Alors, puisque l'on évoque le temple de Jérusalem, Jésus participait-il lui aussi aux fêtes juives ?
Ah oui, il a même participé à cette fête de Soukhot. Lors de cette fête, on demandait à Dieu d'envoyer des pluies abondantes pour les prochaines récoltes. Le lien avec Jésus est très fort. C'est encore Jean qui nous en parle. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, il enseignait. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Jésus se présente comme la source d'eau vive. par opposition à une eau stagnante de la religiosité. Boire de son eau nous permet nous-mêmes de devenir source qui étanche la soif des autres. Par ailleurs, lors de cette fête, les femmes suspendaient des lampes à huile au mur du temple, ce qui le rendait visible à des kilomètres. Cela ne vous rappelle pas la parole de Jésus « Je suis la lumière du monde ». C'est lui qui éclaire notre vie et notre chemin.
Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut développer ?
Oui, tout le monde a besoin d'eau pour vivre et de lumière pour voir. Il y a là une vérité spirituelle souvent insoupçonnée. L'image qui me vient comme ça à l'esprit, c'est comme si on déversait ces éléments dans un grand vase, dans des plus petits. Jésus déverse de la même manière en chacun de ses disciples, par l'Esprit Saint, l'eau et la lumière. On pourrait même dire que Jésus déverse sa vie en nous, ou pour prendre une autre image, il transfuse sa vie divine en nous. D'ailleurs, en Éphésiens, on trouve 10 fois l'expression « en lui ». Par exemple, « en lui », « en Jésus », vous êtes édifiés pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Nous sommes un tabernacle pour l'Esprit de Dieu. Il vit en nous et nous vivons en lui. Waouh, je trouve que c'est très enthousiasmant.
Merci Bernard. Alors si on résume, c'est quoi le cheminement spirituel de cette fête ?
C'est relativement simple. Dieu est venu habiter dans une tente dans le désert au milieu du peuple hébreu. Puis il habitait dans le temple construit par Salomon. Puis il a pleinement habité en Jésus et maintenant, il vient pleinement habiter en nous. Enfin, pour autant qu'on le veuille et qu'on lui laisse de la place.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous arrivons à la dernière partie de notre entretien. Dites-moi, est-ce que l'on peut vivre cette fête au quotidien et si oui, comment ?
Puisque nous avons dit que c'était la fête de la reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait et fait encore d'ailleurs, ce sera de le remercier chaque jour. Par exemple, on voit ça souvent dans les films américains, mais dans notre quotidien, nous prions et remercions le Seigneur avant le repas. Le remercier, c'est aussi une prière. Si on n'y prend pas garde, on finit par croire que tout nous est dû, qu'il est normal que nous ayons à manger et un toit. Mais non, au regard de populations ailleurs dans le monde, on voit que l'opulence que nous avons en Occident n'est pas partagé par tous les hommes sur la surface du globe. On apprend à nos enfants à dire « s'il te plaît » et « merci ». Pourquoi nous, adultes, on ne dirait pas merci au Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ses bénédictions reçues jour après jour ? C'est lorsque nous avons mal quelque part ou que nous visitons les hôpitaux que nous prenons conscience que nous avons une grâce énorme d'être en bonne santé.
Oui, puis je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais lorsque je prends le temps de voir comment je suis fait, comment je peux me mouvoir, courir, chanter, pleurer, manger, j'en passe. Je trouve vraiment qu'on est bien fait. C'est peut-être après une telle réflexion sur lui-même que le roi David s'exprime dans le psaume 139. « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Ah ben, peut-être faut-il, à l'instar du roi David, apprendre à s'aimer soi-même et à louer le Seigneur. Ça m'inspire une prière toute simple que je vous suggère. C'est celle-ci. « Seigneur, je te remercie pour qui je suis. Il n'y en a pas deux comme moi, avec une telle singularité dans le monde. Merci de m'avoir créé unique. »
Oui, et puis si on s'en donne la peine, dans les faits, il y a plein de choses qui peuvent nous pousser à remercier le Seigneur. Merci pour ma femme, pour mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Merci pour le toit, le vêtement, l'emploi, mes amis, la nature, la mer, la montagne, les fleurs, les insectes, les poissons bizarres, les formes de nuages, le jour, la nuit, le soleil, la pluie, et j'en passe.
Oui, mais avec la vie qu'on mène, ce n'est pas toujours facile de voir le positif.
Et avoir de la reconnaissance et remercier le Seigneur, c'est un style de vie. Moi, je le répète souvent, Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. L'écrivain Merlin Carotter en parle très bien, dont les titres sont évocateurs. De la prison à la louange, la puissance de la louange. Il démontre que la louange à Dieu, quelles que soient nos difficultés, nous fait sortir de l'emprisonnement de nos sinistroses. On ne remercie pas pour les problèmes qui sont les nôtres, mais du fait qu'il veille sur nous. Et on peut retrouver aussi dans les psaumes, ça évoque vraiment cette vérité. Hein, et on en a vraiment plein dans les psaumes. Remerciez le Seigneur, y compris dans vos afflictions, et puis vous verrez, vous irez mieux.
Dites-moi, cette fête de Soukhot peut-elle se célébrer aussi en église ?
Ah oui, pour la première fois que j'ai pris conscience de cette fête, c'était à Osnabrück, la ville avec laquelle Angers est en jumelage. En visite à l'église baptiste et intrigué par les décorations aux abords d'une église, mon hôte m'a expliqué que chez les protestants en Allemagne, la fête des récoltes était très courante. J'ai trouvé cela très juste et depuis, nous la fêtons presque chaque année en église.
Oui, et puis on invite les gens à venir avec des fruits, des légumes, des fleurs, des branches d'arbres. Et il règne une atmosphère de fête, c'est très sympa. C'est incroyable de voir la diversité des formes, des couleurs, des senteurs et de goûts. Presque à chaque fois, nous nous disons que Dieu est très créatif, c'est un artiste hors pair. Il a bien dû s'amuser d'ailleurs à créer tout ça. Et il aime la diversité, et chez l'homme aussi d'ailleurs, hein, c'est à méditer. L'an dernier, comme cette année, nous installons un barnum au milieu de l'église, ce qui nous rappelle la tente des Hébreux dans le désert pour la fête des tabernacles.
Et ce jour-là, il y a plus de chants de reconnaissance qu'à l'accoutumée. Il arrive même qu'il y ait des farandoles, comme les Juifs le font durant cette fête au mur des Lamentations. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur YouTube, c'est une explosion de joie, de danse, de farandoles. Rien d'étonnant, puisque les psaumes nous invitent à acclamer le Seigneur, à nous réjouir en sa présence. Un jour de fête, on ne peut pas rester droit dans un formalisme austère, ce serait faire injure au Seigneur. Alors pardonnez-moi cette expression, lorsqu'on fait la fête, il ne s'agit pas d'être dans un silence de cathédrale, mais joyeux et enthousiaste. Le livre de Néhémie raconte l'inauguration de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. L'événement a été célébré dans la joie, la louange et le chant, accompagné par les cymbales, les luttes et les lyres. Et Néhémie précise que les réjouissances étaient telles qu'on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. Et Esdras ajoute « Ils acclamèrent et louèrent le Seigneur en chantant, le peuple aussi, faisait une ovation au Seigneur en poussant de grandes acclamations. » La fête de Soukhot et des récoltes, c'est non se faire plaisir, mais faire plaisir à notre Seigneur et réjouir son cœur, car il le vaut bien.
Merci Daniel. C'est déjà la fin de notre émission. Pourrait-on conclure avec quelques versets bibliques, Jean-Didier ?
Oui, bien sûr, et ils sont tirés du premier du Nouveau Testament. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, dit Paul, soyez joyeux.
Merci à vous trois, notre émission s'achève. Si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait de nous arrêter un instant pour trouver de quoi remercier Dieu et qu'il vient habiter en nous comme il est habité en Jésus. Retrouvez notre émission en podcast sur RCF Anjou. Bonne fête des cabanes et des récoltes à chacun et à très bientôt.